Canada.
Cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Alors nous sommes 50 personnes dans cette salle à avoir accepté.
Our movement started with a moment. A summer night in June 1969 ignited the modern fight for LGBT equality. One year later, we took to the streets again to commemorate that occasion. Nearly five decades later, celebrations across the world continue honoring that heritage of pride. Now the celebration returns home. There are a million reasons to visit New York City. We're going to give you millions more. In 2019, New York City welcomes the world as we mark the 50th anniversary of the Stonewall Uprising and celebrate a half century of progress for LGBT liberation. And when you arrive, you'll find millions of moments of pride. In 2019, make your moment where the movement was made.
Chaîne d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités,
160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Bonjour, bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à votre émission hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes dans la cour de l'école, non. Nous sommes à Queen's Park, Hart House Studio, aux couleurs tropicales. Bonne fête Canada, en direct de Hart House. On vous souhaite un bonjour chaleureux aux amis partenaires à l'écoute de Mississauga, Gatineau, Ottawa, Trois-Rivières, la ville de Québec, Port-au-Prince, Haïti, l'île de la Réunion, Lyon, Toulouse, Paris. Et je vois aussi qu'il y a des amis qui nous écoutent, Corinne, Émilie de Turin, Torino, Italia. On vous dit bien le bonjour. Il y a des gens du Sénégal et de la Côte d'Ivoire sont dans la boîte. L'ingénieur du son, DJ Devera. Sloane Ballan est à Montréal et les stagiaires de l'été sont avec vous. Animation, production, j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller jusqu'à 13h avec cette voix. Eric Kader vous souhaite bienvenue. Émission en partenariat aujourd'hui avec la belle soirée de la fièvre de vendredi soir au Rhum. Bonjour à Jocelyn. Et allez faire un tour chaque vendredi, soyez parmi nos invités VIP. Et le programme de mentorat de la musique pour les artistes émergents, appuyé par RBC Banque Royale et le Toronto Fringe Festival. Et aussi un bonjour spécial à notre partenaire du jour, c'est la Francofête 2019. Et oui, vous pouvez venir prendre ma place. Hein. Les portes sont grandes ouvertes aujourd'hui. Au menu, en ce dimanche 30 juin, on fait la commémoration de ces émeutes Stonewall Inn. 50 ans de fierté, de lutte, de courage et de résistance. Ça se passe en grande pompe à New York au moment où je vous parle. Plusieurs grandes vedettes et des politiciens sont dans cette marche de la fierté gay à New York aujourd'hui. Et Potpourri Show s'en souvient et célèbre la grande marche mondiale de la Gay Pride de New York aujourd'hui. Un sondage sur la qualification des enseignants, enseignantes de la diversité en Ontario continue à défrayer les manchettes. Le syndicat des enseignants se défend toujours et parle d'un malentendu regrettable. Et pour donner suite au passage des enseignants issus de la diversité à notre émission du 14 avril dernier, et suite à l'article de la journaliste Natasha McDonald Dupuis de Radio-Canada, cette semaine, notre émission a le plaisir de recevoir deux intervenants pour faire le point sur les négociations en cours. Quelle est la réponse de l'AEFO, c'est l'Association des enseignants-enseignantes francophones de l'Ontario. Quelles sont les réactions du groupe de suivi des enseignants-enseignantes de la diversité? Qu'est-ce qui cloche vraiment? Pourquoi ça ne débloque pas? Nous avons deux représentants, deux invités à notre émission aujourd'hui. Et Jacques Touré, enseignant-chercheur, conseiller à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa qui a écrit une lettre assez pointilleuse. Et Clément Yonta Ngoumé, qui est enseignant dans la région d'Ottawa, seront des nôtres entre 11h30 et midi aujourd'hui. Les artistes québécois continuent à nous émerveiller et sans grands frais de déplacement. Vous pouvez admirer, madame, monsieur, les œuvres d'une belle exposition intitulée Clair Obscur, qui a démarré avec un magnifique cocktail le 20 juin dernier. Vous avez jusqu'au 7 juillet pour aller visiter la galerie Thomson Landry, située dans le quartier de la Distillery District à Toronto, pour admirer et apprécier les œuvres de Marie-Josée Roy, dont les sculptures et les toiles ont fait l'objet de nombreuses expositions à l'international, et l'artiste Martin Rondeau, il est photographe visionnaire qui fait rayonner le Québec à travers le monde. Allez sur le site www.thomsonlandry.com pour tout savoir, et Marie-Josée Roy sera des nôtres dans la deuxième heure. Et oui, et un avant-goût des artistes et de ces concerts vedettes là, des artistes vedettes et de ces concerts qui s'en viennent dans le cadre des festivités de la Francofête, le plus grand festival de musique et de culture francophone de Toronto, qui nous revient avec les couleurs et les rythmes de l'Afrique, juste de 5 au 7 juillet 2019 au Yonge Dundas Square, à ne pas rater un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Allez visiter leur site pour avoir tous les détails, francofete.ca. Et l'invité pour nous parler de Francofete, c'est Michel-Olivier Matt. Il est le directeur général de la Francofete 2019 et sera des nôtres, je l'espère, vers 12h35. Eh oui, il est parti en 17 avril 2008, mais ses œuvres et sa mémoire nous hantent toujours. Et surtout, les jeunes Antillais qui sont à la recherche d'un leader, d'un visionnaire, d'un sauveur. Et notre émission rend hommage et souligne l'anniversaire de ce grand poète et militant Aimé Césaire, né un 26 juin 1913, afin de d'immortaliser sa mémoire. Et sa maison a été restaurée en musée. Collaboration Martinique Première. Et plus de 250 réalisateurs protestent contre l'ONF et son président. Ça va pas du tout là chez les producteurs francophones. Et pourquoi les 45 millions de dollars de la nouvelle stratégie 2019-2022 de lutte contre la haine et le racisme du gouvernement Trudeau ne font pas l'affaire de tout le monde au pays, surtout les groupes extrémistes de droite? Les commentaires haineux sur les réseaux sociaux nous laissent perplexes. Vous êtes noir, gay, trans ou autochtone? Vous vous sentez en sécurité ou pas? Alors, de vivre au Canada, envoyez-nous un message à popourri@cut.fm. Pour tout savoir sur cette nouvelle stratégie, allez sur le site canada.ca/antiracisme. Et selon le journal La Presse de ce matin, les Québécois moins familiers avec l'Holocauste que le reste du Canada. Très intéressant. Appel aux candidatures pour le conseil d'administration de Reflet Salvéo. Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avant le 8 juillet prochain avec la présidente du comité des nominations, Marlène Télé-Lusma-Rémy, au 647-827-0037. Je répète, 647-827-0037, ou encore aller sur le site de refletsalveo.ca/description de tâches des membres du CA pour avoir plus de renseignements. Et enfin, le calendrier de nos partenaires. Vous allez voir, il se passe beaucoup de choses dans cette ville de Toronto cet été. Festival Afrofest de CUTFM, festival annuel. Le grand carnaval caribéen de Toronto du 31 juillet au 3 août avec le festival Compazouk, volet francophone. Et la question du dimanche, être un Canadien, qu'est-ce que ça représente pour vous? Que veut dire être Canadien? Existe-t-il une identité canadienne? Écrivez-nous immédiatement. Vous avez un cadeau surprise qui vous attend. Popourri@cut.fm. Popourri Show, 33 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence. Merci. Et oui, les buzz de cette semaine. Une autre affaire au conseil scolaire Via Monde fait le buzz cette semaine et les réactions n'ont pas tardé. Selon un article de la journaliste Natacha McDonald Dupuis de Radio-Canada, une mère dont le fils de 6 ans a été restreint physiquement à plusieurs reprises par des membres du personnel d'une école élémentaire près de Toronto a déposé une plainte devant le tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Il nous semble que c'est la deuxième plainte en moins de 2 mois. Leila Rémy accuse le conseil scolaire Via Monde d'avoir criminalisé son fils en raison de la couleur de sa peau. Le conseil scolaire Via Monde a réagi par voie de communiqué et ne veut pas commenter publiquement sur le dossier présenté devant le tribunal. Eh oui, le conseil scolaire Via Monde tient à rassurer les familles qu'il met toujours tout en œuvre pour créer et maintenir un climat sécuritaire et bienveillant dans toutes les écoles. Cet énième incident d'une école du conseil scolaire Via Monde lance des débats, des discussions au sein de la communauté immigrante francophone, des enseignants issus de la diversité mécontents, des dossiers en suspens ad aeternam et pour certains francophones, ces nouvelles négatives répétées impliquant des francophones issus de la diversité risquent de causer plus de malheur à la communauté noire francophone de l'Ontario. À noter, le 17 juin dernier, le conseil Via Monde a annoncé la nomination de Mme Tricia Véro et M. Hugues Kamba Wambo, respectivement à titre de surintendant de l'éducation et en par intérim, je dis bien par intérim. De la plateforme numérique du groupe Média TFO, hashtag ONFR+, pour la deuxième année consécutive, la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney, a été absente, parce que je pensais déjà terminé, était absente de la conférence ministérielle sur la francophonie canadienne qui se tenait à Iqaluit. La politicologue au Collège militaire royal du Canada à Kingston et notre collaboratrice à l'émission, Stéphanie Chouinard, ainsi sur l'importance de ce genre de rencontre. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario n'a pas souhaité se prononcer sur la question. En revanche, l'ancienne ministre des Affaires francophones, aujourd'hui porte-parole pour le Parti libéral de l'Ontario, dans ce dossier, Marie-France Lalonde, ne peut cacher sa déception. Pour elle, c'est une insulte, un affront à tous les francophones et francophiles de la province de l'Ontario. Toujours de la plateforme numérique du groupe Média TFO, hashtag ONFR+, selon une récente étude de Statistique Canada, les immigrants francophones n'ont pas plus de difficultés à s'intégrer économiquement en Ontario et dans les provinces à l'extérieur du Québec que leurs homologues anglophones. Un témoignage et parcours d'une Française. La passerelle fait la manchette à nouveau. Elle est forcée de corriger une erreur dans un outil de prévention du VIH. Après $1 million pour mener différentes initiatives de prévention en matière du VIH en Ontario, mais aussi en Alberta, au Manitoba, la passerelle ID est critiquée pour son absence à une table de concertation VIH de Toronto. Loi sur les langues officielles fête 50 ans et sur hashtag ONFR+, on vous présente une compilation des bons et des mauvais élèves de certaines agences fédérales à lire absolument. À en croire, les organismes d'aide des itinérants francophones sont à peu près inexistants dans les rues de la plus grande ville du pays, Toronto. Pourtant, depuis 4 ans, le journaliste Étienne Fortin-Gauthier et on a croisé des dizaines d'itinérants francophones. Et oui, ça existe bien et bel et bien dans la ville de Toronto, la ville la plus riche, je pense. Des observations confirmées par de nouvelles données de la ville de Toronto. Aujourd'hui, nous racontons enfin tous les problèmes et les... Il n'y a pas de statistiques formelles, il me semble. Aujourd'hui, vous allez voir dans cet article, on vous partage cette situation précaire chez les itinérants francophones à Toronto qui sont bien souvent laissés à eux-mêmes. Glenn O'Farrell, président du groupe Média TFO, annonce qu'il quittera ses fonctions le 16 août prochain après 9 ans à la tête de la télévision publique francophone de l'Ontario. Glenn O'Farrell est crédité d'avoir fait basculer l'entreprise dans une nouvelle ère d'innovation où les outils numériques ont été mis de l'avant, s'ajoutant à la programmation linéaire de la télévision traditionnelle. Excellent coup de filet de hashtag ONFR+. C'est un article à lire absolument pour réécrire un roman là-dessus. Avez-vous déjà lu ou entendu parler dans le journal sous le nom de Nouvelle Communautaire Community Digest. Et ben, depuis plus de 10 ans, un bimensuel en Colombie-Britannique prend sans autorisation, je dis bien, du contenu des autres médias pour remplir ses pages. L'enquête de hashtag ONFR plus est constituée de témoignages d'une vingtaine d'intervenants. L'agence France Presse, la Presse canadienne, l'Express de Toronto et le Métropolitain, le Régional, ont tous confirmé n'avoir jamais autorisé l'utilisation de leurs articles qui sont pourtant publiés dans ce journal. Pendant 9 ans, ce journal bidon a obtenu, tenez-vous bien, 1,5 million de dollars en publicité du gouvernement canadien. Et oui, d'ailleurs, de 2009 à 2010 a été l'année fiscale de la plus lucrative pour ce journal, avec près de 400 000 dollars d'achats publicitaires du gouvernement du Canada. Le mystérieux propriétaire du journal est Nazir Nick Ibrahim, un homme d'affaires unilingue anglophone dans la région de Vancouver. Voilà un autre scandale quand on sait qu'il y a de vrais médias communautaires qui peinent à trouver des fonds pour survivre. C'est tout un scandale, à mon avis. Du magazine Jeune Afrique, la Tunisie encore sous le choc d'un double attentat suicide qui s'est produit jeudi dans le cœur, au cœur de Tunis, la capitale. Les policiers étaient visés par ces attaques et l'un d'entre eux a été tué. Des attaques revendiquées dans la soirée par le groupe État islamique alors que débute la saison touristique en Tunisie. Et c'est dans ces conditions que le pays doit aussi affronter un flou politique, puisque la santé du président tunisien inquiète. Beji Caïd Essebsi, âgé de 92 ans, a été hospitalisé mercredi soir pour la deuxième fois en 2 semaines après un grave malaise. Côte d'Ivoire, effervescence générale à l'approche de la présidentielle 2020. Les manœuvres vont bon train au sein des états-majors politiques, tandis que le gouvernement met les bouchées doubles pour mener à bien les derniers chantiers des années Ouattara. May you live in interesting times. Les artistes africains prennent d'assaut la Biennale de Venise. Si vous êtes dans les environs de l'Europe cette année, attention à la chaleur, et ben allez vous balader à Venise. Cet été, allez faire un tour à la 58e exposition internationale d'art contemporain qui dure jusqu'au 24 novembre 2019. Et avec de nouveaux pavillons nationaux, une grande visibilité dans ces expositions internationales, l'Afrique est très présente, en force même, je dirais, à la plus importante biennale d'art contemporain d'Europe. Parmi les thématiques, un hommage sur les migrants noyés en mer, l'installation de cette barque, Barca Nostra, de l'artiste suisso-islandais Christophe Buchel, qui a suscité les hauts cris, eh oui, un 18 avril 2015, dans le détroit de Sicile. Elle a chaviré cette barque avec plus de 700 migrants subsahariens qu'elle transportait depuis les côtes libyennes vers l'Europe. May you live in interesting times, exposition internationale d'art contemporain, place à l'Afrique, c'est à Venise. Rocher Salvéo participe du 3 au 5 juillet prochain au 10e anniversaire de la célébration des journées annuelles du multiconfessionnalisme et de la diversité de William Osler, Osler Multifaith and Diversity Days, prenant place aux hôpitaux Brampton Civic, Peel Memorial et à l'hôpital général d'Etobicoke. L'hôpital Brampton Civic a été identifié, je vous rappelle, pour l'obtention d'une désignation en tant que fournisseur de services de santé en français. Alors, bravo. Le Carnaval caribéen de Toronto, le plus important festival consacré à la culture antillaise en Amérique du Nord, lance sa programmation le 9 juillet prochain à l'hôtel de ville de Toronto. Au menu, un avant-goût des spectacles, des festivités de l'édition 2019. Événement touristique majeur, le Carnaval caribéen de Toronto attire, je vous rappelle, d'ailleurs cette année ça va se passer du 31 juillet au 3 août, le plus grand défilé attirant plus d'un million de visiteurs dans la ville reine pour un total de 2 millions de personnes pour l'ensemble de la durée du festival. À noter, le volet francophone sera bien présent cette année, encore une fois, grâce à notre partenaire festival Compazouk de l'Ontario. Et oui, mois de fierté, Pride Month prend fin cette année, mesdames, messieurs, ben aujourd'hui, avec ce grand défilé, hein, défilé monstre, je pense Madonna sera là, il y a plusieurs artistes, Lady Gaga était là hier soir, toute surprise, a fait un très beau témoignage. Alors, ce dimanche, c'est le grand défilé. Le lancement a eu lieu lundi avec l'actrice Whoopi Goldberg, d'ailleurs qui a été à l'émission la semaine dernière. Et Popourri Show en profite une fois de plus pour réitérer toute sa solidarité aux militants, militantes et les alliés LGBTQ+, du monde entier. De la première marche en 1970 à New York et à nos jours, il y a plusieurs articles, plusieurs films, de documentaires, des sociologues en ont parlé, des experts sur justement les motifs de cette marche et aussi les avancées et les difficultés que connaissent la communauté LGBT à travers le monde. Il y a un article, moi, qui a attiré mon attention, c'est de la sociologue experte associée à la Fondation Jean Jaurès. Elle s'appelle Charitini Karakostaki. Et elle revient sur 50 ans de manifestations de Gay Pride et de marches de fierté à travers le monde. Cette année, les manifestations de la communauté LGBT fêtent le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall Inn partout dans le monde. Bien que cette émeute ne soit pas la première dans l'histoire des luttes homosexuelles, elle fut la première à marquer une vague de protestations déclenchant la première manifestation homosexuelle à New York le 28 juin 1970. Les communautés LGBT des grandes villes européennes se donnent alors pour objectif de suivre le mouvement. Une lecture que je vous recommande absolument. Avant Stonewall, ces émeutes oubliées de l'histoire des droits LGBT. Et en dernière heure, nous apprenons que l'Islande adopte une loi pour améliorer les droits des personnes trans et non binaires. D'ailleurs, nous avons reçu beaucoup d'encouragement lors de notre émission spéciale de la semaine dernière sur la communauté LGBT à travers le monde. Et aussi, on a rencontré des Français, des Européens, des gens de l'Afrique qui viennent d'arriver à Toronto, qui étaient ici pour la marche de la semaine dernière. Nous avons donc de nouveaux amis et on vous souhaite bon séjour chez nous à Toronto. Le 1er juillet, nous fêtons le Canada. Partager le pluralisme empêche-t-il toute la possibilité d'identité canadienne? C'est la question que je vous pose maintenant. Vous pouvez nous appeler ou encore envoyer un message plutôt par courriel. Le pluralisme empêche-t-il toute possibilité d'identité canadienne? Répondez, courez la chance de gagner un tout nouveau t-shirt de CIUT 89,5 FM. Et merci à tous ceux et celles qui ont déjà répondu. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
CIUT 89.5, Toronto.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer
et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à rise and shine.
Et oui, une polémique sur les qualifications des enseignants de la diversité perdure à l'Association des enseignants-enseignantes francophones de l'Ontario, selon une étude sur le site de Radio-Canada du 24 juin dernier. Et pour donner suite aux interventions des enseignants impliqués, Popourri Show a le plaisir de donner la parole à deux intervenants, deux invités. Toujours selon l'article de Radio-Canada du 24 juin, des enseignants se disent humiliés par les résultats d'un sondage qui montre que les membres de l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens croient que les enseignants issus de la diversité manquent de qualifications. Le syndicat se défend et parle d'un malentendu regrettable. Les résultats de ce sondage mené par PGF Consultants auprès de 1186 membres du syndicat ont été présentés lors de l'Assemblée générale de l'Association. C'était au mois de février dernier à Mississauga. Et dans la section qualificative du sondage, qui provoque d'ailleurs un malaise chez certains enseignants issus de la diversité, c'est là où le bât blesse. Alors, il y a des lettres, des entrevues. Je sais que les enseignants du groupe de suivi de la diversité ont tenté à plusieurs reprises de rencontrer les officiels de l'AEFO. Et l'AEFO a envoyé une lettre. Que dit cette lettre? Nous allons en parler dans un instant avec notre premier invité, qui est Jacques Atouré. Il est chercheur, enseignant, conseiller à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Eh oui, bonjour Monsieur Touré, ça va?
Oui, bonjour Monsieur Kader, vous m'entendez?
Ça va, oui, ça va, 10 sur 10, mais peut-être ma voix ne fait pas, ne donne pas crédit à l'émission aujourd'hui. Mais j'espère que je durerai au bout jusqu'à 13 heures. Alors, okay. Vous avez écrit une lettre très intéressante qui a été reprise, je pense, en partie dans un article d'ailleurs, c'est ça qui a attiré notre attention sur le site web de Radio-Canada cette semaine. Par contre, les autres médias n'en ont pas tellement parlé. Je ne sais pas si vous avez tenté, d'envoyer cette même lettre à l'Express de Toronto ou le Métropolitain. Mais le message est très, très clair. Hein, ce que vous dites, vous reprochez qu'il n'y a pas tellement d'équité dans la façon, le concept même de procéder chez l'Association des enseignants francophones de l'Ontario.
Oui, ben en fait, ce n'est pas une lettre, c'est un article, c'est un article d'opinion que j'ai publié sur la question, concernant cette polémique. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais féliciter ACIUT de donner l'occasion aux enseignants de s'exprimer, parce que je pense que c'est la deuxième fois que vous le faites. Alors, ça, c'est à votre crédit.
Oui, alors.
Donc, pour revenir à l'article que vous avez mentionné, ben moi je ne suis pas membre du groupe de suivi, je ne suis pas enseignant non plus. Alors lorsque j'ai entendu parler de cette polémique, ben en tant que personne extérieure aux deux parties, c'est-à-dire l'AFO et le groupe des enseignants de suivi, j'ai voulu porter un regard objectif, un regard neutre sur ce qui s'est passé.
Quel est votre regard?
C'est à l'issue de ce regard, de ce constat que j'ai fait, que j'ai écrit un article, que j'ai envoyé à l'Express, publié. Mais à ma grande surprise, François Bergeron, j'espère qu'il est à l'écoute, il a refusé de publier mon article.
Ah, c'est vrai?
C'est ce que j'appelle. Oh, il a carrément refusé de publier mon article. Moi, j'appelle ça de la censure, parce que j'ai dit à François Bergeron que cet article n'engageait pas le journal, mais c'était une opinion émanant de ma personne. Mais après, avec le recul, j'ai compris que, il a vu le contenu ne lui plaisait pas sans doute, et il a décidé de ne pas du tout publier. Alors, je suis content, n'est-ce pas, que vous me donniez l'occasion de m'exprimer là-dessus.
Alors, parlez-nous un petit peu de votre regard brièvement, parce que le fonctionnement même de ce syndicat, il n'y a pas tellement de représentants de la diversité au sein de la direction.
Ben, effectivement, ça c'est effectivement important parce que bon, il faut dire que je connais très bien le syndicat parce que j'ai été membre pendant 10 ans de ce syndicat et ce que vous dites m'a effectivement frappé. Alors, lorsque vous regardez le comité exécutif du syndicat, vous voyez très peu de diversité. Hein. Je sais que bon, dans leur esprit, diversité se limite à hommes-femmes et en ce qui concerne les minorité raciale, ce n'est vraiment pas le cas. Pour revenir, n'est-ce pas, à la polémique et à l'article en question, j'ai été surpris, moi, par la réaction du syndicat, n'est-ce pas, la réaction initiale. Hein, et ils ont d'abord nié les faits. Pour ensuite dire que oui, certains propos ont été tenus. Alors, je trouve que venant de la part d'un syndicat, ce n'était pas du tout responsable parce que avant d'écrire mon article, j'ai envoyé une série de questions à M. Hubert, je pense qu'il est le responsable du sondage. Je lui ai envoyé une série de 8 questions parce que je voulais écrire un article objectif, je voulais avoir le point de vue de chacune des parties impliquées. Il m'a répondu ceci, hein, que cette affirmation est incendiaire et repose sur une prémisse malheureusement créée de toutes pièces, rien dans le sondage, non plus dans la présentation, blablabla. Donc ça a été, ils sont totalement niés. Et si vous lisez l'article l'Express a consacré à cette affaire, vous voyez que M. Sabourin, dans sa réponse au groupe de suivi, avait aussi nié. Mais lors de son passage, dans votre première émission, je ne sais pas si vous vous souvenez, Monsieur Hubert a dit que c'était un commentaire venant d'une trentaine de personnes. Dans l'article de l'Express, Monsieur Sabourin dit que ce sont des propos dérangeants venant de quelques personnes. Alors, vous ne pouvez pas à la fois nier que ces propos ont été tenus et ensuite reconnaître qu'ils ont été tenus, ne serait-ce que par une minorité. Il y a un manque de cohérence dans l'attitude du syndicat et des sondeurs. C'est comme s'ils cherchaient à cacher quelque chose. J'ai trouvé ça vraiment choquant.
Le 27 mai, il faut rappeler aux gens, ils ont quand même répondu au groupe des enseignants, groupe de suivi des enseignants-enseignantes de la diversité. C'était le 27 mai, une lettre signée que j'ai entre les mains, M. Pierre Léonard, directeur général et secrétaire trésorier de l'AEFO, qui dit « Chers membres, les membres du conseil d'administration de l'AEFO se sont réunis et ont examiné les demandes du groupe de suivi des enseignants de la diversité, qui se résume comme suit. Une lettre d'excuse de la part de l'AEFO, c'est ça que demandait le groupe. » La suppression du sondage et des données, parce que c'est chaotique. La création d'un comité permanent de la diversité et de l'équité. D'ailleurs, cela m'étonne qu'en 2019, qu'il n'y ait pas un comité se penchant sur la diversité dans le conseil scolaire de l'Ontario en 2019. C'est incroyable. La désignation de postes au sein des instances de l'AEFO et des postes de cadres réservés pour les enseignants, les enseignantes de la diversité, il me semble que ce sont des demandes quand même assez logiques.
Assez légitimes. Assez légitimes, tout à fait. Tout à fait. Ils ne demandent pas la lune. Ils demandent simplement de rectifier des anomalies qui ont cours en ce moment. Donc, pour revenir encore, n'est-ce pas toujours à la polémique en question. Et dans mon article, après avoir souligné les incohérences de M. Rémy et de M. Hubert, j'ai porté un autre regard sur le sondage. Et c'est là le plus gros du problème. Le sondage révèle de sérieuses lacunes méthodologiques. Et c'est ahurissant. C'est incroyable. Et donc, je ne vais pas revenir sur tout le contenu de mon article, mais quand on regarde le sondage et qu'on regarde, n'est-ce pas, les résultats qu'ils ont communiqués, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils cherchaient à comprendre dès le départ. Hein. Et parce que là, je ne sais pas si vous avez vu le sondage, mais l'objectif de départ, c'était de faire un portrait de la diversité, hein, de voir quelles étaient les politiques inclusives, quelles étaient les pratiques inclusives. Mais lorsque vous regardez les résultats des sondages, vous voyez que les résultats des sondages ont été faits en fonction de la perception de chaque groupe. Hein. On parle de groupe majoritaire, on parle de groupe minoritaire, mais ce n'était pas cela. Le but du sondage n'était pas d'obtenir la perception de chaque groupe. Donc là, ça pose déjà un premier problème. Et quand je regarde encore le sondage à la page 12, j'ai des diapositives hein, que le syndicat m'a envoyé. On voit quelque part où il est marqué les groupes majoritaires sont préoccupés par le manque de qualification du personnel immigrant. Mais... après avoir nié qu'ils ont dit cela. Et ça, c'est dans leurs résultats.
Et dans votre lettre, il me semble, quelque part, vous dites que Benoît Hubert enchaîne en soutenant que ces données qualitatives suggèrent que le sentiment d'effritement de la culture locale exprimé par la majorité pourrait indiquer que la diversité est perçue par ces derniers comme une menace à leur culture.
Exactement. Et ça, c'est très grave parce que lorsqu'on regarde le sondage, ces résultats, ces commentaires n'ont rien à voir avec l'objectif du départ du sondage. Et moi, j'ai regardé les questions, j'ai vu les questions du sondage parce que, bon, elles sont plus disponibles, mais avant de faire l'article, j'ai passé au travers de toutes les questions. Il n'y a aucune question ne permet de tirer ce type de faire ce type de commentaires. Aucune question. Alors, d'où viennent ces commentaires? On se pose des questions. Ils nous disent par quelque part que non, il s'agit de la partie qualitative. Monsieur Kader, moi, je fais de la recherche en sciences sociales. Et leur façon de parler de partie qualitative, de partie quantitative, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Parce que là, il ne s'agit pas d'un sondage mixte. Effectivement, lorsqu'on peut faire un questionnaire mixte avec une partie qualitative et une partie quantitative, mais alors, pour parler des résultats de la partie qualitative, il faut avoir utilisé des méthodes de collecte de données qualitatives. Ici, ce n'était pas du tout le cas. Alors, c'est abusif de parler de mentionner des résultats émanant de la partie qualitative. Totalement abusif. Contraire aux méthodes employées en sciences sociales. Et il parle de commentaires, n'est-ce pas, laissés à l'appréciation de sondés, n'est-ce pas, pour dire oui, s'il voulait faire des commentaires. Mais lorsque les commentaires, parce que là, ils l'ont dit à plusieurs reprises, n'est-ce pas, à votre émission, que c'était seulement une trentaine de personnes qui ont fait ces commentaires. Sur 1000 personnes, M. Kader, si 30 personnes font un commentaire sur 1886, cela signifie que ces commentaires ne doivent même pas être mentionnés dans les résultats parce qu'ils ne sont pas du tout représentatifs.
Oui.
Alors, donc, venir, n'est-ce pas, donner autant d'exposition à des commentaires d'une infime minorité, des commentaires qui n'auraient même pas dû être suscités pour commencer, ça encore, ça pose problème. Alors, c'est vrai que dans mon article, bon, j'ai parler des incohérences de M. Sabourin et de M. Hubert, mais le gros du problème ici, c'est la structure du sondage, qui était mal conçue, qui comporte beaucoup de lacunes. Mais l'autre gros problème, c'est l'attitude du syndicat. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple aussi, très simple, M. Kader. Si nous sommes dans un autobus et vous me marchez sur le pied et que je vous fais remarquer que vous m'avez marché sur le pied, vous n'allez pas me reprocher de me plaindre. L'attitude de l'AFO, dès le départ, c'est d'avoir reproché au groupe de la diversité de se plaindre. On marche la tête, là. Et venant de syndicats, c'était d'autant moins compréhensible que le rôle du syndicat, c'est de protéger les intérêts de ses membres. Donc, c'est comme si le syndicat s'est mis résolument du côté du sondeur.
Oui. D'ailleurs, dans la lettre qu'ils ont envoyée au groupe de suivi sur la diversité, on dirait qu'ils ne pensent pas prendre des mesures pour rectifier le tir. Hein.
Oh, je vais vous dire une chose. Voilà, c'est le constat que j'ai fait. Parce que là, ça se passe toujours ainsi lorsque des minorités se plaignent, on prend pas cela au sérieux. Monsieur Sabourin et son groupe, et la FO, ont pensé au départ que ce serait une tempête dans le verre d'eau. Ils ne pensaient pas que Monsieur Yonta et son groupe allaient se montrer aussi tenaces. Ils ne pensaient pas que ça allait arriver aussi loin. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu une réunion de conciliation il y a quelque temps. Je me souviens plus. Je pense que c'était au mois d'avril où ils ont même invité Monsieur Roméo Leblanc comme facilitateur.
Oui.
J'ai rencontré Monsieur Roméo par la suite.
Qui travaille à l'université d'Ottawa. Hein.
Voilà. Mm-hmm. Il n'en revenait pas du tout. Il était vraiment, il a fait le même constat que moi, que le sondage était mauvais, c'est un sondage bidon. Il était aussi surpris par l'attitude du syndicat. Le syndicat aurait dû avoir une attitude beaucoup plus conciliante. Mais je pense que dès le départ, ils ont voulu, entrer dans une logique de confrontation et de polémique.
Oui.
Et là, ils sont surpris un peu des répercussions parce que ils ne s'attendaient pas à ce que ça arrive aussi loin. Et là, je crois que c'est quand même décevant de la part d'un syndicat.
Oui, et nous allons tout à l'heure parler avec un représentant, M. Yonta, d'ailleurs, qui était à l'émission le 14 avril dernier, pour avoir son point de vue, parce que je pense qu'il a des choses aussi à dire et pour parler des prochaines étapes. Mais en tout cas, tout ce qui est en train de se passer là, et avec les histoires qui ne sont pas toujours mises en onde parce que les gens ont peur de représailles, parce qu'on reçoit des lettres, on reçoit des courriels, on reçoit des commentaires de la part de beaucoup de monde, les gens nous disent, dans un milieu ou dans un temps où il n'y a pas assez d'enseignants pour les écoles francophones dans la province de l'Ontario, les gens passent leur temps à les recruter dans d'autres provinces. Or, il y a beaucoup d'immigrants qui sont ici, qui ont été déjà enseignants dans leur pays d'origine, qui peut-être doivent, on doit leur ouvrir les portes, leur donner une chance. Aussi, cette attitude qu'on va perdre notre culture, je pense que ça, c'est très grave. Même s'il y a 30, 35 ou 2 enseignants qui le disent, ça crée une atmosphère empoisonnée pour les immigrants qui travaillent dans le milieu scolaire.
Absolument. Absolument, je suis totalement d'accord avec vous, Monsieur Kader.
Et aussi, je pense, 2017, 2018, 2019, il y a des lois, si vous allez sur le site du ministère de l'Éducation, 2017, 2018, il y a des politiques sur l'équité en matière d'emploi, sur l'équité dans les écoles. Allez sur le site, je ne raconte pas d'histoire, il y a même des millions de dollars qui ont été alloués pour ces projets-là, pour ces politiques. On se demande, qui surveille les conseils scolaires de langue française? Ils sont redevables à qui? Et personne ne sait, on n'a jamais vu un plan pour expliquer à la population en général, voici le mandat, voici notre engagement. Et on sait que tout n'est pas parfait. Là, on vient de nommer une personne comme surintendant d'origine africaine dans un certain conseil scolaire dont on ne dirait pas le nom, mais c'est par intérim, toujours par intérim. Donc, on n'est pas là en permanence, on est toujours par intérim. Et je pense que les gens ont un peu marre de cette situation. Alors, il y a beaucoup de nouvelles qui rentrent là. Je vous remercie beaucoup,
Monsieur Cadet, dernier commentaire, s'il vous plaît, oui. Parce que là, ce que vous venez de dire est assez intéressant, n'est-ce pas? Qui surveille le conseil scolaire, qui surveille ce qui s'y passe? Mais je pense que là, les responsabilités sont partagées. C'est vrai que si vous regardez les conseils scolaires francophones à Toronto, vous verrez très peu de diversité au sein, n'est-ce pas, à la tête des écoles au niveau des directions, très peu de diversité. Qu'est-ce qui se passe dans les conseils scolaires? Mais là, les responsabilités sont partagées parce que les conseils scolaires, lorsqu'il y a des élections, il y a très peu de mobilisation au niveau des minorités raciales. Hein. Alors, donc, voilà pourquoi il y a un statu quo qui se perpétue et je pense qu'il faudrait que les minorités se mobilisent aussi au moment des élections et acceptent de jouer un rôle actif. Sinon, ce que vous déplorez là va toujours continuer.
Oui. Jacques Touré, enseignant, chercheur, conseiller à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, je vous remercie. On garde le contact, on suit ce dossier de très près. Merci encore.
N'hésitez pas à m'appeler.
Au revoir.
Au revoir.
Et oui, nous avons reçu un message d'un expert en éducation. Il est clair qu'il existe un malaise dans la francophonie ontarienne à ce sujet. Malheureusement, plusieurs immigrants préfèrent se taire ou parler sous anonymat. Oui, on entend beaucoup de témoignages sans pouvoir vérifier leur véracité, mais des recherches existent qui semblent confirmer l'existence d'une discrimination liée à la couleur et aux origines. Il est intéressant de noter que ces cas de mauvais traitement potentiel à l'encontre de certains élèves noirs ou de l'immigration coïncident avec la polémique sur la supposée incompétence des enseignants de groupes dits ethniques. La sous-représentation de ces groupes dans la hiérarchie de l'AEFO et ses conseils scolaires francophones est criarde, alors même que la population étudiante s'est fortement colorée, de même que le personnel enseignant, le personnel cadre, cependant, n'a pas beaucoup changé. Les critères de promotion au poste de direction d'école et de personnel cadre restent flous. Par exemple, des témoignages font état du fait que certaines directions ou directions adjointes d'école auraient été promues à ces fonctions après seulement 2 ou 3 ans en salle de classe, sans maîtrise ou sans avoir suivi le cours de qualification à la direction d'école, alors que plusieurs de leurs collègues remplissent ces exigences et ont plus d'ancienneté, mais ne sont pas promus. Par ailleurs, pourquoi aller recruter des directions ou de son personnel cadre dans d'autres provinces au détriment de son propre personnel largement sorti des universités ontariennes? Plusieurs conseils scolaires donnent l'impression d'être gérés par des entreprises privées, voire familiales, alors qu'ils sont financés par des fonds publics. Il est grand temps que le gouvernement s'assure du respect des lois et politiques en matière d'inclusion et d'équité. Notons pour terminer que des efforts ont été faits par certains conseils scolaires qui ont nommé plusieurs directions et directions adjointes issues de l'immigration. Il y a quelques jours, le conseil scolaire Via Monde a nommé un surintendant d'origine d'un pays d'Afrique noir. Des efforts restent à faire. Merci et bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup, monsieur, pour cet entretien. Et oui, maintenant nous allons parler avec un représentant du comité ou groupe de suivi des enseignants ici de la diversité, Clément Yonta Ngouné, qui est enseignant dans la région d'Ottawa. Bonjour, Clément.
Oui, bonjour, Monsieur Kader.
Oui, j'espère que vous m'entendez.
Alors, permets-moi de dire un bonjour chaleureux à tous les auditeurs de Chaud Pourri et en particulier à tous les enseignants francophones de l'Ontario.
Oui, ils sont nombreux à nous écouter. On reçoit des nouvelles. C'est incroyable parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je ne dirais pas que c'est mauvais. Je pense qu'il faut crever l'abcès des fois pour pouvoir aller plus loin. Je sais que ça fait mal pour les auditeurs qui sont un peu sensibles, au cœur sensible, des Franco-Ontariens, des Québécois. Je sais, des fois, ils nous envoient des pics pour nous dire que nous allons trop loin. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de médias, justement, pour vous donner la parole, vous donner la chance pour que vos membres et vous-même, vous arrivez à vous exprimer et à dire ce qui se passe dans votre milieu. Alors, parlez-nous un petit peu, justement, depuis le 14 avril dernier, quand vous êtes passé en onde, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et l'AEFO?
Alors, depuis mon dernier passage en onde, disons que nous avons reçu une lettre de l'AEFO dans laquelle ils ne répondaient pas aux 4 doléances que nous leur avons soumises. Alors, je peux vous dire que jusqu'à présent, pratiquement aucune de nos doléances n'a été acceptée ou n'a été examinée. Donc, on est un peu comme dans un statu quo, en fait. Donc, nous avions soumis 4 doléances à l'AFO. La première, c'est une lettre d'excuse adressée à tous les enseignants francophones de l'Ontario pour l'humiliation dont ont subi les enseignants issus de la diversité, les enseignantes et enseignants issus de la diversité. Nous n'avons pas obtenu une lettre d'excuse, tout au moins on a obtenu une petite lettre d'excuse pour les commentaires dérangeants et non une lettre d'excuse pour l'humiliation auquel nous avons fait face. Nous avons demandé la création d'un comité permanent de la diversité et dans la lettre que nous avions reçue en mai, la lettre à laquelle vous avez fait allusion, on n'avait pas fait mention de la suite pour ce comité, mais assez paradoxalement, lorsque Natacha Dupuis a publié son article ou l'émission qui est passée, c'est par là que nous avons appris qu'il y a eu un comité aviseur ou un comité conseil qui est en voie de création. Vous voyez, nous n'avions même pas été informés. Ça traduit une fois de plus le mépris que notre syndicat a à l'endroit des enseignants issus de la diversité.
Et ce comité est composé de qui?
On n'a aucune idée. Comme je vous dis, nous l'avons appris de la télévision ou par les émissions de Natacha Marc-Dupuis, dont nous n'en savons pas plus. Alors, est-ce qu'un jour ils nous contacteront pour nous faire part de la création de ce comité? Ben, nous attendons.
Oui. Parlez-nous un petit peu de la relation que vous avez avec ce professeur, Monsieur Raymond Leblanc, qui lui aussi trouve ce sondage dégueulasse. C'est vraiment mal fait, mal formaté. Les questions n'étaient pas appropriées. Parlez-nous un petit peu de votre relation. Et est-ce qu'il a joué un rôle de médiation entre l'AEFO et vous?
Oui, il a joué un rôle de facilitateur lors de notre première rencontre avec l'AEFO. Parce que lors de cette rencontre, l'AEFO avait suggéré qui est peut-être un médiateur ou un facilitateur. Et donc, finalement, quelqu'un nous a suggéré, M. Raymond Leblanc, que nous ne connaissions pas. Alors, nous l'avons contacté. Il a accepté de jouer le rôle de facilitateur. Et entre-temps, nous avons envoyé son nom à l'AEFO. L'AEFO l'a appelé pour vérifier qui il était. Et finalement, l'AEFO a accepté que ce soit le facilitateur.
Et alors, lui, qu'est-ce qui est ressorti de ces réunions, de ces rencontres?
Ben, lors de cette rencontre, nous avons essayé de dire clairement à l'AFO ce que nous avons ressenti, l'humiliation que nous avons eue à partir du sondage. Nous avons essayé de leur parler de notre malaise. Et M. Raymond Leblanc, qui était là aussi, on a parlé du sondage également. Et M. Raymond Leblanc, comme tous les autres, est arrivé à la conclusion que le sondage a été mal ficelé et que l'interprétation des résultats posait un gros problème. Il y avait beaucoup de lacunes dans l'interprétation des résultats du sondage.
Et je rappelle aux gens que M. Raymond Leblanc, professeur d'inclusion, de diversité et d'équité à l'Université d'Ottawa, donc il sait de quoi il parle.
Exactement.
Eh oui. Et comment tout ça va se dénouer, d'après vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a vous faites confiance toujours à l'AEFO, à ses dirigeants?
Ben, nous espérons toujours que l'AEFO finira par retourner sur la table pour le dialogue. On est un peu déçus pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, parce que, comme je vous l'ai dit, parmi les 4 doléances, pratiquement aucune n'a été acceptée. Et je vais prendre une doléance en particulier sur laquelle ils n'ont du tout rien dit, la doléance concernant la représentativité au sein des instances de l'AEFO. Alors, tout à l'heure, M. Jartouré a un peu effleuré. Je vais prendre des chiffres pour que les auditeurs puissent bien nous comprendre. À l'AEFO, il y a 11 cadres. Parmi les 11 cadres, il n'y a aucun cadre qui est issu de la diversité. Il y a 14 personnels de soutien. Parmi les 14 personnels de soutien, il n'y a aucun personnel de soutien qui est issu de la diversité. Le conseil d'administration de l'AEFO est composé de 21 membres. Parmi les 21 membres, vous avez à peine 2 personnes qui sont issues de la diversité. Vous voyez le portrait de notre syndicat. Alors, lorsque nous demandons une représentativité, ce n'est que légitime. C'est la moindre des choses. On ne demande que d'avoir cette petite place qui nous revient de droit. Pourquoi le syndicat ne nous l'accorde pas?
Oui. Alors, écoutez, nous sommes avec vous. On remercie beaucoup Radio-Canada qui a fait un travail quand même d'enquête, qui vous a interviewé d'autres personnes, d'autres personnalités. Je remercie aussi tous les professeurs de l'Université d'Ottawa qui vous soutiennent. Et ils sont beaucoup plus nombreux que vous le pensez, parce qu'on reçoit encore des commentaires qui nous arrivent, que je vais lire tout au long de cette émission. Tenez-nous au courant de ce qui se passe, du suivi, parce que en 2019, il me semble que c'est inacceptable que des situations comme celle-là se déroulent dans nos écoles, dans les conseils scolaires de la province de l'Ontario. Monsieur Clément Yonta Ngouné, merci infiniment. Je vous rappelle aux gens que vous êtes enseignant dans la région d'Ottawa et que vous êtes membre du groupe de suivi des enseignants, enseignantes de la diversité. Vous êtes, je pense, vous avez cinq représentants qui sont très actifs dans ce dossier et tout au long de l'année, on pourra interviewer l'un ou l'autre pour justement alerter l'opinion publique de ce qui se passe dans nos conseils scolaires. Merci beaucoup. Hein?
Merci, M. Kader. Merci beaucoup.
Passez une très bonne journée.
Merci, vous aussi. Merci.
Et pour nous rejoindre tout au long de l'émission, si vous avez des commentaires à passer, popourri@cut.fm. Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
Romain Ozoui.
Et à la une de l'actualité de ce dimanche 30 juin, une première pour l'histoire. Donald Trump est entré ce matin en territoire nord-coréen, ce qu'un président américain n'avait jamais fait jusque-là. Image symbole qui n'a duré que quelques instants, alors que Donald Trump se trouvait aux côtés de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, dans la zone démilitarisée. C'est la zone qui sépare les deux Corées. Déclaration de bonnes intentions des deux côtés. C'est un grand jour pour le monde, a affirmé Donald Trump, tandis que Kim Jong-un a dit espérer surmonter les obstacles. Dans ce but-là, justement, le président américain annonce avoir invité Kim Jong-un à se rendre aux États-Unis. L'objectif, c'est de relancer les discussions qui sont au point mort depuis l'échec du deuxième sommet entre les deux hommes. C'était au mois de février au Vietnam. En République démocratique du Congo, c'est aujourd'hui le 59e anniversaire de l'indépendance. Et à cette occasion, l'opposition appelle à des manifestations, manifestations qui ont été interdites par les autorités. Des tirs de gaz lacrymogène ont été signalés pour disperser les manifestants à Kinshasa, dans la commune de Ndjili. Et puis des heurts signalés également à Goma, où la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser de petits groupes de manifestants. Appel à manifester également au Soudan ce dimanche. L'objectif, c'est de faire pression sur le pouvoir militaire et demander son transfert aux civils. Deux mois et demi après la destitution du président Omar el-Béchir, il devrait s'agir de la première mobilisation massive depuis la dispersion d'un sit-in devant le QG de l'armée à Khartoum. C'était au début du mois. À l'étranger, les appels à la retenue sont nombreux pour éviter une nouvelle répression sanglante. En football, quatre rencontres contre au programme dans la CAN aujourd'hui. Les deux premières dans le groupe B, le Nigeria face à Madagascar et la Guinée qui sera opposée au Burundi. Deux rencontres à partir de 16h TU. Et puis 3h plus tard, les deux autres matchs du jour, l'Égypte contre l'Ouganda, la RDC contre le Zimbabwe. Et puis depuis hier soir, on connaît les affiches des demi-finales de la Coupe du Monde féminine, toujours en football. La Suède affrontera les Pays-Bas. Les Suédoises ont dominé l'Allemagne 2-1, tandis que les Hollandaises avaient battu l'Italie un peu plus tôt. L'autre affiche, on la connaît depuis un peu plus de 24h. L'Angleterre face aux États-Unis, les Américaines tombeuses au tour précédent de la France.
RFI, la radio mondiale.
Il y a ce que vous écoutez sur la radio mondiale, et il y a ce que vous écoutez ailleurs, mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est tel groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
Bonne fête Canada. Et la question du dimanche, être canadien, qu'est-ce que ça représente pour vous? Que veut dire être canadien? Existe-t-il une identité canadienne? Écrivez-nous, madame, monsieur, popourri chaud, popourri@cut.fm. On vous souhaite une très très joyeuse fête du Canada. Hommage littéraire à Aimé Césaire. Et oui, le 26 juin 1913, naissait un grand poète, Aimé Césaire, à Basse-Pointe, en Martinique. Et beaucoup de nos médias partenaires lui ont rendu hommage cette semaine. C'est un mouvement anticolonialiste. visant à mettre en valeur l'Afrique et sa culture. Élu maire de Fort-de-France en 1945, il devint ensuite député. Il obtient la départementalisation de la Martinique en 1946. Il meurt le 17 avril 2008 et je me souviendrai toujours où j'étais ce jour-là. C'est un poète, un personnage politique français. Figure littéraire emblématique avec sa poésie, ses pièces de théâtre, Aimé Césaire fut aussi une grande personnalité politique. Rapporteur de la loi de départementalisation de 1946, sa longévité comme député, 48 ans, il faut le faire, et maire de Fort-de-France, 56 ans, ont été remarquables. C'est également le fondateur du Parti progressiste martiniquais, l'une des premières grandes formations locales du département. De fait, Césaire a toujours utilisé sa verve littéraire en politique et sa clairvoyance politique en littérature, comme dans le cahier d'un retour au pays natal et dans le discours sur le colonialisme. Césaire a accompagné les bouleversements du monde d'hier, les a parfois anticipés, enregistrés dans son œuvre, qui aujourd'hui doit nous parler. La présence si souvent remarquée de l'universel dans son œuvre, mais un universel riche de tous ses particuliers. Grâce à un loto du patrimoine en France, dont le premier tirage a eu lieu en septembre 2018, la maison d'Aimé Césaire va devenir patrimoine. Eh oui, sa maison, simple maison coloniale, située dans le quartier La Redoute, à Fort-de-France, deviendra un musée. Et comme ça, vous et moi, nous pourrions un jour aller en Martinique visiter le musée Aimé Césaire. Reportage de Martinique Première.
Ce sont les nouveaux occupants de la villa d'Aimé Césaire. L'une est ethnologue, les autres sont archivistes. Depuis mars, ils y passent quelques heures par jour. Leur tâche est à la fois passionnante, complexe et fort utile. Mireille Mondésir a la responsabilité du mobilier. Ce meuble, par exemple, rappelle le lien qu'entretenaient Aimé Césaire et Georges Braque, l'initiateur de l'art contemporain.
L'enquête que je mène me montre qu'il s'agit d'un meuble qui a été spécialement conçu par les ateliers municipaux de la ville de Fort-de-France pour recevoir les feuillets, les carnets du feuillet des dessins de Braque. Donc là, on a quelque chose de très intéressant parce qu'il n'y en a pas deux. Il est unique.
Il s'agit de raconter le lien entre l'objet et son propriétaire. Un travail de fourmi qui identifie tout ce que contient la maison de l'écrivain.
Mesurer hauteur, largeur, définir le type de matériaux, faire une description la plus exhaustive possible, mettre en avant des signes particuliers intéressants pour une éventuelle conservation ou restauration. Faire ressortir l'histoire associée à ce mobilier.
La villa d'Aimé Césaire est à l'image de son propriétaire, humble et accessible.
Il n'était pas du tout dans une surenchère de possession matérielle, mais plutôt bien dans la surenchère de possession intellectuelle.
Ces archivistes ont pour leur part la responsabilité de répertorier la bibliothèque d'Aimé Césaire. À ce jour, l'estimation serait d'environ 3000 ouvrages. Il y a le catalogage classique, mais pas seulement.
Il faut qu'on fasse attention, par exemple, une dédicace, une mention, une annotation, l'état du livre, la provenance du livre, l'éditeur des fois.
Cet inventaire est indispensable pour identifier, valoriser et protéger un patrimoine. La maison d'Aimé Césaire est classée monument historique. À l'issue de ce long travail, il s'agira d'aller encore plus loin.
Il y a une scénographie qui va être mise en place, sur laquelle on est en train de travailler justement, avec l'architecte du patrimoine. L'équipe a été choisie, sélectionnée. C'est toute une cellule qui travaille dessus pour que tout soit en lien en même temps. Et surtout, respecte et continue en extension la pensée d'Aimé Césaire. Donc c'est ça aussi, c'est donner le passé, le présent et le futur, qu'on puisse joindre tout ça.
Le projet de restauration et de réhabilitation de cette maison commencera au plus tôt en fin d'année pour une ouverture d'ici 2021.
Écouter est la plus grande des qualités. écoutez les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Et oui, madame, monsieur, bonne fête du Canada encore à ceux et celles qui nous envoient des messages et beaucoup de commentaires sur l'éducation en langue française, en Ontario, équité en matière d'emploi, des politiques antiracistes. C'est fait, mesdames et messieurs, pour justement éviter qu'il y ait des conséquences graves, comme on l'a lu cette semaine dans les journaux. Et bravo encore une fois à Radio-Canada. C'est dommage, hein, le journal Express n'en a pas tellement parlé. Et merci à tous les gens qui nous écoutent dans la région de Montréal, attentivement. Dans un instant, nous allons passer... Ah oui, avant, je vous rappelle, à 12h30, oui, nous allons parler de Francofête. Vous allez voir panoplie d'artistes venant d'ailleurs, couleur d'Afrique, cette année, à ne pas rater. Et ça s'annonce. Mais dans un instant, nous allons parler à une artiste... les lauréates 2019 de la catégorie art et sciences humaines. Vous pouvez aller voir ses œuvres Claire Obscure, on est le titre, jusqu'au 7 juillet prochain à la galerie Thomson Landry située dans le quartier de la Distillerie District, c'est le petit Montréal à Toronto, et qui vous invite à cette exposition de ces deux artistes québécois, madame, monsieur. Nous avons Martin Rondeau, qui est un photographe visionnaire, qui fait rayonner le Québec à travers le monde. Et nous avons un autre qui est avec nous aujourd'hui, c'est Marie-Josée Roy, dont les sculptures et toiles font l'objet de nombreuses expositions à l'international. Et elle sera des nôtres dans une fraction de seconde. Oui, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Marie-Josée Roy, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Oui, vous avez une belle voix, vous devriez prendre ma place parce que moi j'ai perdu ma voix depuis hier. Alors ça arrive, mais j'espère que vous m'entendez convenablement. Alors, bravo, félicitations, on parle de vous, mais on vous connaît un peu moins parce que, bon, les francophones de la région, francophiles de la région de Toronto ne vont pas toujours aller à la découverte des artistes du Québec au Québec, mais là, ils ont une chance, c'est-à-dire, vous venez vers nous pour nous présenter vos œuvres. Parlez-nous un petit peu ce que vous avez voulu retracer à travers les œuvres que vous exposez en ce moment à la galerie Thomson Landry.
C'est des sculptures et peintures et photos du sujet clair-obscur. Mmh. Donc, le point de départ qu'on a pris, moi et Martin, pour cette exposition-là, c'est une tête d'enfant en plante que j'avais chez moi. Je lui ai posé la question de savoir si ça l'inspirait, si on voulait partir de ça, parler un peu de l'enfant en soi, puis de toutes nos parties sombres et nos parties lumineuses en rapport à tout ça, de notre enfance et de jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il a dit oui. Fait qu'il est passé avec cette tête-là. Lui, il l'a photographié. Et moi, je l'ai repris. Et je pars un scan 3D de cette tête-là. Donc, j'ai des impressions 3D avec une imprimante 3D qui reproduit en fait cette tête-là à l'intérieur de mes œuvres, mes sculptures. Et puis moi, je l'ai pris aussi en photo et elle se retrouve partout dans mon langage plastique, tant au niveau de la sculpture que de la peinture.
D'ailleurs, si les gens vont sur le site web de thomsonlandry.com, ils vont pouvoir admirer. Mais c'est pas la même chose quand vous allez voir l'exposition. Alors, ce qui est aussi important, vous deux, Martin Rondeau et vous-même, vous tentez d'examiner, il me semble, le passé, son impact à l'identité, et vous créez d'une manière sélective des silhouettes qui peuvent sembler déformées des fois. Et vous essayez de peut-être entrer dans un inconscient collectif que nous tous, nous en avons quelque part caché chez nous.
Exactement, tu as très bien résumer un peu le propos qu'on visait dans notre approche. Et puis je te dirais que Martin, pour ajouter, Martin Rondeau, lui, a exploré un peu plus le côté sombre, le côté noir. Mm-hmm. Et puis moi, j'ai au côté plus le côté lumineux, parce que dans ma démarche personnelle et dans les œuvres que je fais, c'est plus dans le côté lumière, puis Martin, c'est plus dans le côté noir. Fait que ça a donné super bien dans notre tempérament, puis dans notre démarche respective qu'on fasse cette exposition-là.
D'ailleurs, c'est là où devient le thème clair-obscur.
Exactement. Oui. Ça a été le sujet.
Oui. Alors, est-ce que c'est compliqué, c'est difficile, justement, d'arriver avec un thème et des silhouettes, des gravures de ce genre-là? Qu'est-ce qui vous inspire dans votre vie de tous les jours? Parce qu'on voit que vous êtes quand même connu, vous baladez à travers le monde, vos œuvres sont connues à l'international. Qu'est-ce qui vous inspire au Québec pour justement aller dans ce sentier-là?
Je vous dirais que depuis tout le temps, les relations humaines ont toujours été très, 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 en tout cas, intrigantes pour moi. J'ai toujours été en mode observation et en mode expression de ça, puis de vouloir plus comprendre, puis d'aller plus profondément à ce niveau-là. Et puis, l'exposition, comme à chaque exposition que je fais, c'est toujours un petit peu de ça que je parle. Mais là, c'était vraiment plus précis en rapport à l'enfance et tout ça. Donc, c'était un autre onglet, mais ça fait partie de moi. Ça fait vraiment partie de moi. Puis, bon, évidemment, les arts nous ressemblent, hein, fait que c'est très logique. Fait que voilà.
Il y a une critique qui dit clair-obscur se veut intime, révélateur, exposition qui explore l'identité de soi sous toutes ses facettes. Tout cela est caché, obscur, voilé. Pouvons-nous nous attendre à ce qu'il soit découvert et dévoilé? Je trouve que c'est bien dit, ça résume en fait cette exposition. Qu'est-ce que vous avez d'autre à ajouter?
Je vous dirais en plus que la galerie Thompson-Landry, surtout dans cet endroit-là, est très, très propice à ce genre d'intimité-là, car c'est dans l'ancienne distillerie, donc c'est un endroit qui est sombre. Tu sais, c'est pas une galerie blanche, toute lumineuse, c'est une galerie dans des voûtes et tout, puis l'éclairage est très vraiment juste sur les œuvres aussi, donc on est vraiment, on entre vraiment dans les œuvres avec le décor qui est là, puis l'éclairage qui est magnifique. Mmh. Cette galerie, c'est vraiment une très, très belle galerie qui vient justement amener cette partie d'intime-là.
D'ailleurs, nous sommes tellement fiers d'être partenaires avec eux. À chaque fois qu'on a l'occasion, on ne rate jamais l'occasion de faire découvrir et savourer les auditeurs, les auditrices, et j'espère qu'ils vont se déplacer pour aller voir votre exposition jusqu'au 7 juillet, ici à Toronto. Il y a aussi le journaliste et rédacteur en chef Stéphane Leduc qui positionne le jumelage de Martin Rondeau et Marie-Josée réunis, où il dit les artistes creusent dans les souvenirs de l'enfance, douleurs, mensonges, secrets qui ne seront jamais complètement révélés, à parfois comme un éclair, la vérité apparaît. Je trouve ça tellement juste ce qu'il dit, c'est très profond. Oui. Alors vous avez quand même de très très bonnes critiques. Je sais que dans le Now Magazine, qui est un quotidien gratuit ici en anglais, là aussi on vous a consacré toute une page. Je trouve ça formidable. Est-ce qu'il y a beaucoup de francophiles, d'anglophones aussi, vous ne savez pas, qui se déplacent pour aller voir vos œuvres?
Non, pas vraiment. Là, j'étais là au vernissage. Ça fait plusieurs fois que j'ai des vernissages là-bas, puis je commence à reconnaître certaines personnes, mais c'est plus des Québécois que je rencontre, des personnes qui parlent français, que je rencontre à la galerie, mais je suis pas au courant des autres personnes qui passent à la galerie. Alors, mais on a des très, très bonnes critiques et on est très contents d'avoir produit toutes ces œuvres-là. On est très, très fiers de nous, Martin et moi.
Alors, en janvier 2019, vous étiez la lauréate lors du gala des Pythagore. Oui. C'était en janvier et organisé par l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est un gala qui souhaite promouvoir les diplômés d'exception et vous êtes la lauréate. C'est quand même tout un éloge en votre faveur. Vous étiez contente, surprise?
Ah oui, évidemment, c'est tout un honneur. J'aurais jamais pensé recevoir un tel prix. Puis bon, je l'ai reçu, j'étais vraiment très, très, très touchée. Oui. Et surprise aussi. Oui. Voilà, c'était
Et je rappelle aux gens que vous êtes né à Joliette, pour les gens qui sont ici ou qui sont sur Internet, qui me demandent mais où est-ce qu'elle vient. Non, elle est de Joliette. Vous êtes né en 1970, je peux le dire.
Non, ça c'est Martin, ça.
Ah, ça c'est Martin, Mais vous, oui. Vous êtes né où?
À Trois-Rivières, en 1968. Voilà. Bon,
très bien. Alors, c'est ça. J'ai fait le contre-saut, là, entre Martin et vous. Alors, Martin Rondeau était là le 20 juin dernier pour le vernissage?
Bien sûr.
Mmh. Tout s'est bien passé? Il a aimé son expérience?
Ah oui, oui, oui. C'était la première fois qu'il exposait avec Thompson Landry pour lui. Et puis, il a vraiment beaucoup aimé l'expérience, la ville, la galerie, le fini, l'installation, l'éclairage. C'est, tout était parfait. Puis le vernissage, c'était magique, comme à chaque fois. Vraiment, là, les galeristes de Thompson Landry sont vraiment très professionnels. Ah oui, sont formidables et très professionnels.
Et on parle français, en plus. Alors, lui, je rappelle que Martin Rondeau, lui, il conserve le culte de l'esthétisme et de la beauté. Allez voir ces tableaux, madame, monsieur. Enfin, je vous remercie beaucoup, Marie-Josée Roy. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de vous voir en personne. J'espère que ce soit ici au Québec. Un dernier mot, on célèbre le Canada chez vous. C'est la fête du Canada cette fin de semaine. Est-ce qu'on peut vous souhaiter bonne fête du Canada?
Merci.
Clair-obscur jusqu'au 7 juillet à la galerie Thompson Landry. Il faut absolument y aller. Allez sur le site www.thompsonlandry.com. Je vous remercie de la part de toute l'équipe et on vous applaudit. Merci. Bon dimanche et bonne semaine. Au revoir.
Merci, au revoir.
Et oui, les messages rentrent à flot, madame, monsieur, mais je ne sais pas si on aura l'occasion de... Peut-être on organisera un autre débat, table ronde, avec des invités, des experts, des sociologues, des psychologues, des professeurs sur la diversité, l'inclusion. C'est un sujet qui, malheureusement, fait la manchette, encore une fois, dans les médias, certains médias, hein. On n'en a pas parlé à l'Express de Toronto, je ne sais pas pourquoi. Le 3 juillet 2019, je vous rappelle qu'il y a le lancement du Carnaval des Caraïbes Junior, conférence de presse. Si cela vous intéresse, allez accompagner nos amis stagiaires. Cela se déroulera au Malvern Town Center. À partir de 11h, le 3 juillet, cela vous intéresse, au programme Musique, Danse, Appris de Présence et Mets Antillais Délicieux. Allez, il faut nous écrire avant le 29. Le 9 juillet 2019, lancement, avant le 29, avant, peut-être lundi, hein, on donnera quand même un peu. Ouais. Le 9 juillet prochain, c'est le lancement officiel de la 52e édition déjà, hein, du Carnaval caribéen de Toronto au Nathan Phillips Square à 11h30. Le maire de Toronto sera là. Et puis ça ne passe pas du tout chez Monsieur Ford en ce moment. Hein. Le courant ne passe pas entre lui et l'hôtel de ville de Toronto. On a des petites histoires vraiment à vous faire dormir debout. Monsieur Ford est dans le chaude. Le 13 juillet, sauf qui peut, l'art des grands films d'horreur de la science-fiction de la collection de Kirk Hammett au Musée Royal de l'Ontario, 100 Queen's Park, pas très loin de Hart House. Allez faire un tour, allez sur le site du Musée Royal de l'Ontario, www.romon.ca/fr. Oui, le site est en français. 14 juillet s'en vient, comme chaque année, le Toronto.com et Toronto French Friday vous invitent à un pique-nique franchouillard à la Bonne Franquette au Budapest Park, ici à Toronto. Hein. Et oui, alors, si cela vous intéresse, allez sur la page Facebook de facebook.com/torontois ou encore facebook.com/torontois French Friday pour avoir tous les renseignements. Ça s'annonce pas mal intéressant. Et le 25 au 4 août prochain, avec notre partenaire Festival Compazouk, FKZO, nous allons vous faire vivre la 11e édition des artistes FKZO qui nous présentent des gens, des grands noms d'ici et d'ailleurs. Alors, à ne pas rater. Et puis aussi, il y a le... Comment ça s'appelle Afrofest qui s'en vient à la fin du mois de juillet. Voilà, dans le Woodbine Park, si cela vous intéresse à venir faire de la radio avec nous, voir comment ça se passe, studio en plein air, écrivez-nous popourri@cut.fm. Moi, je suis toujours là, ma voix, comment ça passe? Ça passe? Madame Marceline qui nous a envoyé un petit message. Bonjour Marcel, j'espère que tout va bien. Envoyez-moi votre voix, votre intelligence, votre cœur pour que je puisse garder l'antenne jusqu'à 13h au moins. Je vous salue chaleureusement et je vous souhaite une très bonne journée et bonne fête du Canada.
CIUT 89.5 Toronto.
Our movement started with a moment. A summer night in June 1969 ignited the modern fight for LGBT equality. 1 year later, we took to the streets again to commemorate that occasion. Nearly 5 decades later, celebrations across the world continue honoring that heritage of pride. Now the celebration returns home. There are a million reasons to visit New York City. We're going to give you millions more. In 2019, New York City welcomes the world as we mark the 50th anniversary of the Stonewall Uprising and celebrate a half century of progress for LGBT liberation. And when you arrive, you'll find millions of moments of pride. In 2019, make your moment where the movement was made.
40 ans déjà, madame, monsieur, et on est toujours là avec vous. F. Caso, Popourri Show souhaite un bon anniversaire à Kassav, qui est en tournée. Monsieur, voilà pour vous donner un avant-goût. Enregistrer un peu en direct, c'est toujours difficile, mais ils ont fait un tabac en Martinique, Guadeloupe, en Europe, et ils font la tournée comme ça jusqu'au mois de novembre. Cela vous intéresse d'avoir des billets? Peut-être Kassav sera à Toronto. Il y a des rumeurs, cela vous intéresse, écrivez-nous vite. Et là, nous allons aller à la Francofête, autre rythme, autre festival, très 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 prisé cette année avec une couleur tropicale de l'Afrique. Et là, nous entendons un extrait de Mehdi Kayenne, un électron libre, réel, inclassable dans la francophonie internationale. Et je vous donne un avant-goût, ils seront au prochain festival de Francofête 2019. Qu'est-ce que je raconte ? Écoutons.
C'était pas dans ton assiette, mais regarde le temps qu'il nous reste. Tu sais, la terreur est terrestre, mais chaque asile a son orchestre. Je t'aime à des oreilles possibles, yeah. Je t'aime à des oreilles possibles, yeah. La seule chose que je sais faire, c'est de plonger tête première, terrifié et téméraire. Fais-moi une place dans ton oreille. Je t'aime à des heures impossibles, yeah.
Eh oui, un avant-goût des artistes vedettes lors de la Francofête, le plus grand festival de musique et de culture francophone de Toronto, qui nous revient cette année avec des couleurs et des rythmes de l'Afrique du 5 au 7 juillet au Young Dundas Square, qui ne connaît pas cet endroit maintenant. Un rendez-vous à ne pas manquer. Dans un instant, nous allons parler avec son directeur général, Michel-Olivier Matt, qui sera des nôtres pour nous mettre un peu le rythme dans les ordres. Et oui, bienvenue, monsieur Michel-Olivier Matt, vous êtes avec nous.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, vous êtes directeur général de la Francofête. On vous remercie d'être des nôtres aujourd'hui en cette belle journée ensoleillée. J'espère que c'est la même chose là où vous êtes en ce moment.
Ah oui, on adore le soleil.
Oui, alors vous avez quand même, je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez sans doute une baguette magique. Vous avez des pointus qui sont assez intéressants. Moi, j'ai perdu la voix depuis hier, j'ai trop chanté, je pense. Alors le vendredi 5 juillet, vous avez la grande Rayana, la femme orchestre, avec son électro-soul. Comment avez-vous fait pour dénicher cet artiste?
Ah, ben, on a déjà accueilli, en fait, Rayana à la Francofête en 2015, si vous étiez de passage. On avait fait la Francofête à ce moment-là sur la place Young Dundas également, dans le cadre des Jeux panaméricains. Donc, on assurait le volet, disons, culture francophone des Jeux panam. Mm-hmm. Et puis, Rayana était venue faire quelques spectacles là, à ce moment-là. C'est une artiste qui gravite depuis déjà quelques années dans la communauté disons, musicale franco-canadienne, communauté dans laquelle aussi nos équipes gravitent, donc différents événements un peu partout au Canada et puis aussi ailleurs dans le monde qui mettent en valeur les artistes francophones d'un peu partout au pays. Et puis c'est comme ça qu'on l'a rencontré, puis c'est une musicienne incroyable et puis qui réussit à faire un orchestre à elle seule, quoi, avec surtout en utilisant des technologies, des pédales de loop qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elle enregistre sa propre voix ou des respirations ou des passes, des trucs comme ça très simples qui rejoue en boucle, là, en fait, donc en loop, et puis en superposant différentes sonorités comme ça, vient qu'à créer vraiment le son d'un groupe par-dessus lequel elle peut ensuite de ça, interpréter des chansons. Donc, c'est vraiment un artiste à découvrir. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans le cadre de la Francofête, ça lance notre programmation. Mm-hmm. Donc, ça se passe dans un bar qui s'appelle Winona Lodge sur Door Street West. Et puis, les gens sont invités à venir. Le spectacle est gratuit, très intimiste aussi. Le spectacle débute à 18h30, donc c'est idéal pour passer après le boulot avant de rentrer à la maison. Et puis, ce sera l'occasion là, de lancer la Francofête 2019.
Mais je rappelle que c'est du 5 au 7 juillet. C'est un événement assez unique en son genre, hein, avec une gamme d'activités pour tous les âges, où la musique côtoie création culinaire, activités jeunesse, musique et plus encore, une véritable fenêtre sur un univers. Et cette année, vous faites place à l'Afrique francophone.
Exactement. On a choisi de faire place à l'Afrique francophone au sens large, surtout le samedi 6 juillet sur la place Yonge-Dundas. Donc, on a des artistes qui seront plutôt d'Afrique en début de soirée. Puis, on va mélanger aussi avec des artistes qui sont plutôt du Nord, africain, Maghreb. Là, je pense à Algérie, Maroc. Tout ça, vous avez fait jouer d'ailleurs de la musique méditerranéenne tout à l'heure. Donc, c'est un très bon exemple d'un artiste qu'on aura là, lors de cette journée-là. Et puis, au-delà de seulement présenter des spectacles de musique sur scène, c'est déjà génial en soi, là, avec des artistes de la trempe qu'on a, on veut amener les festivaliers également à découvrir la culture extra-musicale aussi de ces pays-là. Donc, il y aura des moments de discussion avec des artistes où vraiment le public va pouvoir entrer en relation avec eux, leur poser des questions. Et puis, on va aborder des sujets très variés, autant je pense par exemple à des plats traditionnels de leur pays, à comment la musique est apprise chez eux et puis échangée à travers les générations. Je pense à l'habillement, je pense à toutes sortes de trucs qui peuvent être qui peuvent faire porter l'identité culturelle là, de ces artistes-là et de leur pays. Et puis on aura la chance là, d'interagir avec eux au-delà de l'écoute de toute simple d'un spectacle.
Oui. Alors, on a déniché quelques sons pour faire rayonner justement le son et le bruit, le rythme de votre 37e hein, édition quand même, il faut le faire. Il y a un artiste qui est sauté aux yeux de nos amis ici, le dimanche 7 juillet à 12h30, il y a Mélissande Electrotrad qui a vraiment un style assez particulier avec des instruments électroniques. Et qui est assez audacieuse, je trouve. Elle est unique en son genre. La Folk World, depuis 2014, elle fait des tournées, succès en succès. Elle a un album et on va écouter un petit extrait pour donner justement le goût aux auditeurs. Où que vous soyez, madame, monsieur, venez faire un tour à la Francofête cette année au Dundas Square à partir du 5 juillet prochain. Écoutons.
C'est encore l'affaire des filles de balayer la maison. Quand la maison sera nette, les garçons reviendront, reviendront. Quand la maison sera nette, les garçons reviendront. Quand la maison sera nette, les garçons reviendront. Ils viendront quatre par quatre en frappant du talon. Puis bonbon que le vin est bon, camarades buvons. Puis bonbon que le vin est bon, camarades buvons. Ils viendront quatre par quatre en frappant du talon. Ils viendront quatre par quatre en frappant du talon. On leur donne une chaise, on les assoit sur le perron, sur le perron. On leur donne une chaise.
C'est pas mal, hein, des chansons traditionnelles, mais reprendre comme ça des chansons traditionnelles avec un air électronique, il faut le faire. Moi, j'aime beaucoup ce genre, ce rythme. Il y a aussi un autre groupe qui nous intéresse, c'est un rap de l'Afrique. Ça, c'est très intéressant, c'est que lui, il chante avec une chorale d'enfants. Il s'appelle Katam et c'est Tam Tam. Et il chante là avec une chorale d'enfants de l'école du Plateau Mont-Royal à la Maison de la Culture à Unsic. Si vous êtes à Montréal, vous savez exactement où ça se trouve. On écoute un extrait. Hey, hey.
Yeah. Africa. Ouh. On y va, on y va. Tout le monde dans la place, répétez après moi. Maroc.
Maroc.
Tout le monde dans la place, répétez après moi. Égypte.
Égypte.
Tout le monde dans la place, répétez après moi. Cameroun.
Cameroun.
Tout le monde dans la place, répétez après moi. Mozambique,
Mozambique,
Érythrée,
Érythrée,
Guinée,
Guinée,
Rwanda,
Rwanda,
Ouganda,
Ouganda,
Burundi,
Burundi,
Zambie,
Zambie,
Zamboni,
Zamboni,
no no no,
no no no,
Zim Zim Zimbabwe.
Zimbabwe,
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 Djibouti.
Katam, Katam, Katam et ses tam tam. Ça, c'est le dimanche 7 juillet à 11h au son de son Ingoni, du Balafon, du Djembe, de la Derpuka, du Nafar et de Dol. Percussionniste Katam, madame, monsieur, allez, faut pas rater ça. C'est le dimanche 7 juillet. Ça aussi, c'est, il est jeune encore. Il a beaucoup d'énergie, beaucoup de talent et il fait reprendre le public dans ses chansons. Hein. Il est formidable.
Exactement. C'est vraiment un spectacle participatif qu'on a choisi d'offrir aux jeunes festivaliers. Mmh. Donc, Katam, qui a un musicien accompli, qui a voyagé un peu partout à travers le monde, grand collectionneur d'instruments de percussion surtout. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive avec tout son attirail d'instruments de percussion comme ça de partout à travers le monde, surtout d'Afrique, Moyen-Orient et d'Inde. Donc, il va montrer, par exemple, des pas de danse aux jeunes, les faire chanter avec eux, leur faire essayer des instruments. Donc, c'est vraiment un spectacle très, très, très participatif qui rentre, lui aussi, dans l'esprit là, dont on discutait juste avant l'extrait sonore, d'offrir un peu plus aux festivaliers que seulement des festivals, des spectacles de musique, pardon. Oui. Donc, ce sera la même chose, mais pour les jeunes festivaliers.
Oui. Alors, oui, on dit qu'il, son rythme, là, il rentre en transe, vraiment, transe soufi, danse Bollywood, sont au programme. Alors, il faut aller voir ça, il est formidable, c'est toute une aventure multiculturelle qu'on nous propose. Et il y a aussi un groupe, un DJ, qui est déjà passé à l'émission ici, qui a fait d'ailleurs une chanson sur les Franco-Ontariens en rap. Il s'appelle DJ Une Pierre, c'est ça?
Un Pierre.
Alors, parlez-nous un petit peu de ce monsieur. Je pense qu'il réside dans la région de Gatineau ou Ottawa, si je m'abuse.
En fait, non, pas dans la région de Gatineau, Ottawa. Il faudrait que je valide où il est installé exactement. C'est un artiste franco-ontarien qui fait justement dans la musique électro depuis plusieurs années, avec lequel on a travaillé à plusieurs reprises. Notamment, dernièrement, DJ Pierre était présent sur le Festival franco-ontarien à Ottawa. Il a réalisé un grand spectacle de 3 heures avec 5 DJ différents, plein d'artistes, dont notamment le rappeur Fouki, le groupe À la Claire Ensemble qui était là, DJ Abeille également qui était présente. Et puis, c'est vraiment un artiste qui sait bien cerner la foule et puis mettre une ambiance du tonnerre là, très, très, très rapidement. Il collabore régulièrement avec le rappeur Jacobus aussi, ancien de Radio-Radio. Qui lui-même aussi est un franco-ontarien d'adoption maintenant. Et puis, il fait jouer de la musique, là, justement, DJ Pierre, de toutes sortes d'artistes francophones d'un peu partout. Oui. Alors, c'est vraiment un amoureux de la musique.
Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il aime ce mélange, ce métissage entre les rythmes, les cultures, les langues. Et on voit qu'il aime passion d'apporter les jeunes, les moins jeunes ensemble et chanter sur un même rythme, un même ton. On écoute un extrait de son monsieur. Il sera là dimanche le 7 juillet, madame, monsieur. Très reconnu d'ailleurs aussi pour sa présence scénique. Son spectacle visuel est très coloré. Écoutons.
Mais en l'air, no care, ouais c'est clair qu'on file la vibe. On vit pour le moment, à l'instant de no time. Perdu dans l'univers sonore, les tourments s'évaporent. Les liens deviennent plus forts, même si t'es en désaccord. Le vibe est nice, so rap pour une attitude égo et rock. Petite folie, épiphanie, l'euphorie nous désoriente. So avec classe, on oublie nos bonnes manières. Laisse-toi faire, no care, avec qui n'est ni un pierre. Hey Mr. Fire, si tu fais la vibe, perds-toi dans le son. Dans les hautes vibrations. Hey Mr. Fire, si tu fais la vibe, mets en l'air no care, perds-toi dans la vibe. Hey Mr. Fire, Mr. Fire, hey Mr. Fire, tu fais la. Hey Mr. Fire, Mr. Fire, hey Mr. Fire, tu fais la.
DJ un Pierre, madame, monsieur, c'est une tonne de plaisir sur piste de danse garantie. prévu le 7 juillet prochain dans le cadre du festival Francofête ici à Toronto. Allez sur leur site www.franco-fête.ca pour tout savoir. Et je suis en compagnie avec le directeur général Michel-Olivier Matt. Vous êtes dans la région de quel coin de l'Ontario?
À Ottawa.
À Ottawa. Alors, quel temps fait-il aujourd'hui? C'est la fête du Canada qui s'en vient, là? Est-ce que les gens sont en train de...
Oui, grande fébrilité ici à Ottawa. Les rues commencent à être barrées, tout ça. Alors, ce sera la grande fête demain. Ouais.
Alors, il y a un autre artiste pour terminer que j'aimerais que les gens découvrent. J'espère que ça va. Hein. Avec vous, on donne un avant-goût aux gens. Cette palette d'artistes, quand même, c'est impressionnant. Alors, lui, il est originaire de Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est grâce au slam et au rythme qu'il a... qui le passionne d'ailleurs, qu'il a pu monter sur scène et à travers sa poésie, il bâtit un univers où s'articulent vécu, rêve et soif de construire. C'est ça que je trouve formidable. De plus en plus, il y a ces jeunes rappeurs, ce sont des vrais poètes. Hein. Ils prennent des incidences dans la vie, comme ça, des incidents qui se déroulent dans leur vie, dans la société, et ils transposent ça en rap, en chanson. Il s'appelle Kimia, que je ne connaissais pas du tout, mais que maintenant je commence à comprendre pourquoi il chante. On écoute un extrait, il sera là samedi 6 juillet à 14h.
Je me défoule, fais la poule. Je me défoule, je fais la poule. Viens, on se défoule, fais la poule. Viens, on se défoule, fais la poule. Je me défoule, fais la poule. Je me défoule, je fais la poule. Viens, on se défoule, fais la poule. Viens, on se défoule, fais la poule.
Kimia, originaire de Kinshasa. Madame, monsieur, je vous rappelle qu'il est lauréat de l'édition 2016 de Rond-Point, demi-finaliste au Festival international de la chanson de Granby en 2017. Il lance à la même année son premier EP Or et Flamme et remporte le prix Tri Or 2019, donc cette année dans la catégorie Découverte. Donc, c'est un artiste qui monte en flèche, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Installé dans la région d'Ottawa également, Kimia. Bon, sillonne les scènes un peu partout dans l'Ontario français là, déjà depuis quelques années. Ce qui est intéressant de savoir aussi avec cet artiste-là, bon, c'est tout le travail qu'il y a derrière ses spectacles, son écriture, le travail qu'il fait aussi avec les jeunes. Mm-hmm. C'est un artiste qui est grandement impliqué dans les écoles, fait énormément d'ateliers avec eux au niveau de l'écriture, au niveau de la musique. Et puis on voit que... un peu comme Yao l'avait fait, il le fait toujours, le fait avant lui. C'est un artiste qui aime beaucoup partager cette passion-là avec les jeunes des écoles et puis faire libérer un peu toutes les émotions qu'ils ont. Hein. L'adolescence n'est pas toujours une période évidente pour les gens. Mmh. Et puis j'imagine d'autant plus pour des jeunes qui ont quitté parfois des pays en conflit puis qui viennent s'installer, bon, qui choisissent ou que les parents choisissent de s'installer au Canada pour justement offrir une vie meilleure à leurs jeunes, Kimia aide plusieurs jeunes comme ça à finalement extérioriser leurs sentiments et puis construire une identité franco-ontarienne qui est propre à ses enfants.
Mais c'est ça, on parlait justement un peu plus tôt des difficultés de certains enseignants issus de la diversité qui n'arrivent pas à trouver toujours leur place. Et là, vous démontrez une palette d'artistes en provenance de partout et surtout de l'Afrique, de voir cette richesse culturelle qu'on possède en Ontario qu'il faut préserver à tout prix, n'est-ce pas, pour démontrer justement que nous sommes authentiques, nous sommes une province qui englobe, qui regroupe et qui donne accès à des gens, pas seulement sur scène, mais aussi dans d'autres postes, dans d'autres professions. Et vous l'avez fait si bien encore une fois. Et je pense que quand on parle de l'Afrique, c'est toujours le côté négatif. C'est toujours des images insurmontables. Mais tandis que là, vous nous présentez une palette d'artistes qui arrivent avec leur bagage culturel, il faut bien admettre, mais qui nous démontrent aussi leur qualité et leur talent. Alors bravo, félicitations pour tout le travail que vous faites. Et j'espère que ça donne le goût aux autres auditeurs qui nous écoutent, qui sont dans des positions des preneurs de décision, de ne pas avoir peur, de juste faire la place à la diversité. Et c'est une richesse, c'est un un atout incroyable quand on regarde, parce que je sais que ces gens-là, des Africains, vont parler à leurs amis de la région de Toronto. Ils seront nombreux parce qu'ils vont se soutenir, ils vont aimer de voir, d'entendre leurs semblables qui sont sur scène, qui parlent. Et aussi, je pense, beaucoup d'anglophones curieux seront là parce que cette scène est publique, est ouverte, il n'y a pas de prix d'entrée, n'est-ce pas?
Exact.
Alors donc, les gens pourront aller admirer la culture francophone dans sa diversité. J'ai passé au tout début de l'émission, avant que vous soyez en ondes, le groupe Medicayen. Qui ne connaît pas ce groupe? Électron libre, réel, inclassable dans la francophonie internationale. Et ils seront là sur scène le samedi 6 juillet à 17h30. Je demande aux gens d'aller voir ce groupe. Ils sont formidables. Qu'avez-vous à dire sur ce groupe, monsieur?
Ah ben Midi est un artiste, comme vous le dites, réel électron libre qui donne des spectacles à couper le souffle, une présence scénique vraiment incroyable, une musique inclassable aussi, et puis s'il y en a qui connaissent un peu l'artiste Jean Leloup, moi c'est souvent le nom qui me revient quand je vois des spectacles de Midi puis qu'on entend sa musique. C'est un petit peu de on pourrait le comparer un peu à lui dans le style musical. Et puis c'est un artiste très accompli à la fois au niveau musical, mais il fait toutes sortes de trucs au niveau de la poésie également. Il est très souvent à la première chaîne de Radio-Canada dans des éditions de poésie ou de littérature. Alors c'est vraiment un artiste très très accompli et puis qui a un charme incroyable là, durant les spectacles et puis en dehors aussi. Il est très authentique comme personne, on le voit sur scène et puis complètement éclaté, mais c'est une personne qui est comme ça même en dehors de la scène.
Ah oui, c'est vrai. Il a joué aussi avec des artistes éminents comme Michel Fugain, Louis-Jean Cormier, Saul Williams, enfin plus d'autres, et puis ils ont fait la scène des Francopholies à Montréal, Francophonie de Spa, Festival Pause Guitare, Mama, Bis de Nantes, Festival International de la Chanson de Granby. En tout cas, c'est un folk rock doux, paradoxal, et c'est un groupe à découvrir, madame, monsieur, à admirer, à applaudir le samedi 6 juillet à 17h30. Donc vous avez quand même une palette très très variée, très intéressante. Il ne faut pas rater ça, n'est-ce pas? Il faut être vraiment paresseux pour dire non, j'y vais pas.
Exactement. D'autant plus que les concerts sont gratuits.
Exactement.
Très facile à s'y rendre aussi en transport en commun, vu que c'est au centre-ville. Et puis l'ambiance est toujours très, très agréable à la Francofête. Ça se combine très facilement aussi comme au centre avec une sortie au restaurant, tout comme ça. Donc c'est l'idée aussi de la Francofête, c'est d'être vraiment au centre, comme vous le disiez, de l'action. On nous parle, les gens du Square avec qui on est en contact, nous parlent statistiquement de 80 000 personnes qui passent sur l'intersection par jour. donc, si on peut estimer arrêter la moitié d'entre eux qui vont venir écouter un peu de spectacle, ben c'est 40 000 personnes par jour qui vont venir à l'événement et puis parfois découvrir qu'il y a des francophones à Toronto, oui, mais pour certains même qu'il y a des francophones au Canada, je pense notamment à des touristes qui viennent d'un peu partout. On est en plein dans la saison touristique, puis ça nous arrive régulièrement sur Young Dundas d'avoir des touristes qui nous accrochent et disent « Mais là, et dans quelle langue est-ce que vous chantez? Pourquoi ça se passe en français? » Puis on leur explique « Ben écoutez, vous êtes au Canada, il y a des francophones au Canada. » Et puis il y a plusieurs personnes qui ne le savent pas tout simplement qu'il y a des francophones au Canada. Donc, ça fait partie aussi de la mission qu'on s'est donnée. C'est vraiment un statement très fort, là, si je peux me permettre l'expression anglaise, d'être là puis d'occuper l'intersection la plus achalandée au Canada.
Alors, pour les gens qui ne connaissent pas encore...
touristique la plus achalandée aussi au pays, et puis nous, on est là, les francophones, à occuper cet espace-là.
Alors, les sceptiques qui ne connaissent pas encore le Young Dundas, c'est un peu un mini... Times Square de New York.
Exactement. On s'entend. C'est un petit peu l'esprit qui a été créé de cette intersection-là.
Oui. Alors, je rappelle encore une fois rapidement, ne pas rater du 5 au 7 juillet 2019 C'est le spectacle, c'est le moment, le festival francophone qu'il ne faut pas rater, madame, monsieur. Surtout, un clin d'œil à l'Afrique et aux artistes africains. C'est au Young Dundas Square, c'est le métro Dundas. Ça, c'est pas très loin du Eaton Center, c'est à côté d'ailleurs. Un rendez-vous à ne pas rater, allez sur le site www.franco-fête.ca. Et mon invité aujourd'hui, que je remercie chaleureusement, Michel Olivier Matt. Et je vous souhaite bonne fête du Canada. Au Canada.
Merci beaucoup.
Au revoir, à la prochaine.
Au revoir.
Ah oui, nous avons reçu beaucoup, beaucoup de messages de la part des auditeurs sur la question de l'équité dans le monde scolaire, mais aussi notre ami longueur d'onde, Serge Veilleur, qui nous écoute peut-être quelque part en France. Vous invite, madame, monsieur, si vous êtes dans la région de Paris, en France, bien sûr, d'aller faire un tour. Il va voir détonateur musical longueur d'onde avec les Québec Colis. Québécofolie, qui vous propose une soirée 100% canadienne le 1er juillet au Pan Pipers à Paris. Si cela vous intéresse, il va y avoir des artistes comme Damien Robitaille, Isabelle Blé et Pierre-Luc Briand et tant d'autres encore. Alors, allez faire un tour si vous êtes dans la région de Paris, parce qu'il y a des Parisiens qui nous écoutent régulièrement. Je remercie beaucoup DJ Devera, merci d'avoir été là. Jacques Touré, enseignant conseiller à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Clément Yonta Ngouné, qui est enseignant dans la région d'Ottawa, merci. Marie-Josée Roy, artiste peintre, qui fait une exposition à la galerie Thomson Landry à Toronto, Distillery District. Et Michel Olivier Matt, le directeur général de Francofête. Je remercie aussi RFI, tous les autres médias qui nous ont écoutés, Radio-Canada aussi, hein, on a repris les articles, Martinique Première. Et bonne fête du Canada et je vous souhaite bonne semaine. Ce soir, si vous ne savez pas où aller, allez voir dès 17h Okavango African Orchestra que nous appuyons ici. C'est grâce à nous qu'ils ont maintenant un disque avec des Africains venant de tous les pays du continent. Et ils présentent un spectacle ce soir à 17h au Mel Lastman Square à North York. À partir de 17h aujourd'hui, allez faire un tour. Ça va swinguer, comme on dit. Allez, ciao, salut, bon fête du Canada.
Super! Assez, Bibi! D'accord, ça va bien. Ah, vous nous faites plaisir. Nous pas même en vivati. Levez la main, 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 levez la main. Fabé, levez, fabé, levez, fabé, levez, fabé, levez. Ah, 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 ah. Ah, ça va chauffer. Est-ce que vous êtes contents? Joli, ça c'est cassa. Number one. Ciao. C'est parti.
Come on, Unim. Stop, come on. Sucre, c'est ça, me dit, come on, Unim. Stop, come on. sous glace et sans médicament nous nie. 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 Pas que qu'on est, c'est que là ça, pour moi pour la pente ça, pour moi. Comme un plan là, pour qu'on saisisse si jamais un jour on tombe malade. Sous glace et sans médicament nous nie. 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 Sous glace et sans médicament nous nie.